Tech & Co Business, l'invité.
Allez, on démarre tout de suite avec notre invité, Clarisse Angelier, bonjour.
Bonjour.
Clarisse, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'ANRT, c'est l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie. Alors, c'était fondé en 1953, c'est ça? Le but était de doter la recherche d'un partenariat, la recherche partenariale d'un observatoire et de lieux d'échange. C'est, en gros, c'est un réseau de... C'est pour jouer la promotion de la R&D publique et privée, c'est ça l'idée?
Tout à fait. On rassemble les trois quarts de l'effort de recherche privé et public français et on constitue ainsi une communauté force pour développer les partenariats de recherche, faire du transfert entre la science vers l'innovation, créer de la valeur en France, de la compétitivité et puis quelque part la stabilité de l'emploi
et
sociale.
Et 400 membres, ça représente 75% de la R&D, des institutions de recherche publique, des entreprises de toute taille, de tout secteur, des PME, des grands comptes. Vous assurez aussi pour le compte du ministère de la Recherche la mise en œuvre du dispositif de convention industrielle de formation pour la recherche, le CIFRE, justement avec ces docteurs qu'on nous invitant à travers le monde. Justement, on voit comment ils peuvent collaborer avec les entreprises. Et l'an dernier, c'était près de 2000 contrats qui ont été subventionnés.
Tout à fait. Donc 5500 doctorants en stock en ce moment et nous sommes plus de 35 000 anciens CIFRE depuis 1980.
Alors, ma première question, Clarisse, c'est pourquoi on sent une crise de confiance dans la science aujourd'hui et comment retrouver justement cette confiance dans notre capacité de progrès, de développement?
Alors, c'est un point extrêmement important, effectivement, que la place de la science dans le progrès et dans la marche du pays. On a deux population en fait. Une population qui reste encore allante, des jeunes qui sont curieux de la marche du monde, curieuses d'apporter leur contribution scientifique, notamment aux transitions climatiques, mais aussi une population qui s'est un peu détournée des institutions politiques et des institutions scientifiques. Ça participe du même mouvement. Je pense qu'il y a peut-être eu un manque d'exigence dans la formation de nos jeunes, du primaire, collège, baccalauréat, etc., qui fait que les mathématiques, la physique et l'exigence sur la logique a été un peu mise à mal. Et puis, on peut marquer aussi le point sur les réseaux sociaux où il peut se dire un peu tout et n'importe quoi. Oui. Donc, on a à la fois, à mon avis, un pays qui croit encore à l'importance de la science, mais on doit aider notre jeunesse à s'emparer de cette science pour aider le pays à tenir son rang dans la compétition mondiale, sachant, et j'en termine, qu'on n'a jamais si bien reculé. Si vous voyez le.
Oui, on le voit dans les.
On le voit
dans
les voit dans sur l'innovation, sur les classements. Et ça, c'est un sujet, alors qu'on a besoin d'une jeunesse de scientifiques qui participent à la transformation de notre société, que ça soit l'énergie, le climat, le numérique et j'en passe.
Et alors, comment aller plus vite, justement, pour dégager des synergies entre cette recherche académique, à tous ces institutionnels que vous mettez en contact avec ces entreprises, et des applications concrètes en entreprise? Souvent, on voit, c'est un peu la difficulté. On a des doctorants ils sont dans leur couloir de nage, des entreprises qui sont dans leur couloir de nage aussi. Les deux couloirs sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais on a du mal à les faire converger.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part assurer un niveau scientifique et une capacité de science fondamentale importante. Là, ça, c'est le socle, non seulement avec des chercheurs, que ce soit des doctorants, des docteurs, des personnels statutaires, des anciens chercheurs. Donc, vraiment, s'assurer, au moins sur un certain nombre de domaines, que la France tient sa place et, quelque part, détient des capacités à être vue dans le monde et à tenir sa place dans le monde. Et puis, il nous faut mieux former les ingénieurs et les futurs patrons à la question de la R&D. On a quand même, globalement, alors, je parle pas du CAC 40, mais on a globalement des dirigeants qui ne sont pas suffisamment convaincus de l'importance de la R&D et qui peuvent parfois délaisser cette capacité.
Ou qui ont l'impression que ce n'est pas pour eux parce que c'est,
exactement,
ça paraît lointain, et donc, c'est des chercheurs dans leur labo.
Et donc, ils vont non seulement pas suffisamment préparer l'entreprise à demain et pas suffisamment travailler avec le monde académique. Et on a encore, c'est surprenant de le dire en 2025, depuis 20 ans, on travaille à l'évolution de cette recherche partenariale, à l'évolution de l'organisation de la recherche pour qu'elle soit plus en proximité, pour qu'elle favorise ses partenariats. Mais on a encore des réticences et il faut vraiment que l'entreprise accepte qu'elle a besoin de la science fondamentale et qu'elle laisse la science au monde académique, mais que le monde académique et l'entreprise soient en accord pour récupérer cette science et la transformer en des produits, en des valeurs qui vont assurer la survie de l'entreprise et puis plus largement la survie de la société.
Et puis encore plus largement, c'est une affaire de souveraineté aussi quelque part, cette recherche partenariale.
Alors, c'est une affaire de souveraineté, le mot est très complexe.
Oui, il est très large et très complexe.
On est souverain quand on détient une brique d'importance au sein de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il y a aucun pays qui pourra prétendre à être unique sur une chaîne de valeur. C'est pas vrai. Mais effectivement, vous avez raison, il faut apprendre. Il faut que nos entreprises et nos laboratoires apprennent à travailler ensemble à l'échelle française et à l'échelle européenne. Parce qu'il y a des sujets qu'on traitera qu'au niveau européen. Pour effectivement récupérer, devenir les number one sur certaines briques et pouvoir rentrer dans le jeu global des compétiteurs que sont notamment la Chine, les États-Unis et voire l'Inde, etc.
Alors, on parle évidemment beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'innovation galopante dans tous les domaines avec cette intelligence artificielle. Vous travaillez dessus au sein de l'ANRT, l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie, sur l'IA au service des apprentissages. Parce que là aussi, on est en train de revoir de la même façon que ça transforme les process dans les entreprises, etc. Au niveau de l'apprentissage, c'est comment on introduit l'IA dans les pratiques éducatives.
Alors, c'est extrêmement important parce que d'une part, toutes les entreprises vont intégrer l'IA dans leurs process.
Oui.
Que ça soit leur process de R&D, leur process de production, leur relation client-fournisseur.
Et même des patrons qui interrogent une IA pour prendre
Mais ça va aller plus loin que ça. Là, je parle d'une IA agentique, c'est-à-dire avec, dans l'équipe de collaborateurs, de l'IA qui pourra manager d'autres IA. Donc ça, on est complètement parti. Les entreprises pourront pas faire l'impasse de travailler aussi avec l'IA. Alors ça prendra 2 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça, elles doivent se préparer à ça. Parallèlement, on a, et je le répète, on l'a dit tout à l'heure, besoin d'être très exigeant sur le socle scientifique et de logique, y compris grammaticale, pour nos jeunes jusqu'au bac. Donc là, on a besoin de jeunes qui savent apprendre et qui apprennent bien. Donc on a besoin de révolutionner vraiment ou de reprendre la qualité des enseignements, la qualité de la pédagogie, la qualité de la capacité de nos jeunes à apprendre. Et là, on peut avoir une IA qui sert d'Aristote, comme disent chacun son Aristote, selon une expression qui est évidemment pas de moi, parce que nos jeunes peuvent, avec les bons IA, des IA encapsulées, apprendre différemment, poser 15 fois la même question, la poser autrement.
Se challenger aussi.
Se challenger. Et être dans une relation de confiance, on n'a tous pas osé à un moment donné de notre vie dire à notre maîtresse ou notre maître qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas, ou on a posé la question une fois, on n'a toujours pas compris, on n'a surtout pas osé poser la question une deuxième fois. Alors que là, donc il nous faut des IA d'apprentissage, mais qui sont des apprentissages de consolidation performante, et là nous avons un travail à faire avec l'ensemble de nos pédagogues, et le ministre de l'Éducation doit en parler. Après, post-bac, ça reste un peu vrai en licence, c'est-à-dire qu'il faut apprendre nos jeunes à travailler avec l'IA et savoir les challenger sur ce qu'ils savent.
Oui, parce que ce sera de toute façon leur quotidien
et,
à l'avenir.
Ce travail avec l'IA, et à partir du master, il faut les faire travailler avec une IA agentique ou dans l'équipe des jeunes, sur projet, vous avez aussi une IA, mais une IA très compétente, une IA expert et qui pourra être amenée à gérer d'autres IA. Donc là, on a une véritable révolution en termes pédagogiques à mener. Je compte d'ailleurs en parler au ministre de l'Éducation nationale et à Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que il va falloir que ça s'invite prochainement. Et ça ne veut pas dire forcément plus de moyens,
mais ça veut dire ni remplacer
les profs, ça c'est très clair dans notre discours, mais que ça soit un ingrédient pédagogique qu'on n'oublie pas.
Et puis de faire attention aussi de pas avoir j'aime bien, c'est dans les documents que je regardais sur la NRT, vous parliez de dette, le risque de dette cognitive.
Tout à fait.
Juste un dernier mot, le dispositif CIFRE, donc le doctorant est embauché à plein temps dans l'entreprise, il prépare sa thèse en lien avec un laboratoire public, l'entreprise bénéficie d'une subvention aux alentours de 14-15 000 euros, cumulable avec le crédit impôt recherche, et l'objectif c'est d'accélérer le transfert de la recherche vers l'innovation économique. Ça, vous sentez que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, enfin, qui
alors,
est en train de se débloquer.
Depuis les 45 ans du dispositif CIFRE, on a aidé à faire pénétrer la R&D et les partenariats publics au sein des entreprises. Et effectivement, l'intérêt de ce doctorant, c'est que c'est un véritable ambassadeur. Il appartient aux deux mondes. Donc, en fait, il va travailler cette relation à son propre bénéfice, puisqu'il fait sa thèse, mais au bénéfice des deux partenaires, puisqu'il va prendre du savoir de l'une pour aller le conjuguer avec le savoir de l'autre. Et c'est pas si souvent que les entreprises ont des gens à temps plein qui peuvent travailler cette relation. Et une fois qu'un doctorant est dans une entreprise, on a eu des cas où il a lui-même monté un département de R&D, et j'ai des cas d'entreprises qui étaient 30 et elles sont 900.
Voire même créer sa start-up un jour.
Alors
parce que ça aussi,
là,
c'est
y en a
c'est,
y en près a de, on a entre 10 et 15% de nos doctorants qui deviennent leur propre patron, évidemment très souvent sur leur sujet de thèse.
Eh bien voilà, l'appel est lancé voilà aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux patrons d'entreprise. Voilà, il y a tous ces doctorants qui n'attendent que vous et aux doctorants qui nous écoutent aussi, ben voilà, de rejeter, toujours garder un œil sur ces entreprises. Clarisse Angelier,
merci
infiniment d'avoir été avec nous, déléguée générale de l'ANRT, Association nationale de la recherche et de la technologie. Moi, je vous conseille beaucoup d'aller sur le site de l'ANRT, vous allez découvrir, il y a plein de sujets passionnants. J'aurais voulu qu'on aborde aussi celui des métaux critiques parce que vous travaillez sur ces sujets. Mais voilà, le temps nous manque, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.